Chapitre 29. Trajet hivernal. Première partie. Pétale avait fini par accepter, mais seulement après qu'elle eut proposé de téléphoner à son père pour demander la permission. Il était donc parti d'un pas traînant, l'air malheureux, à la recherche de Swain. Et lorsqu'il était revenu, guère plus ravi, la réponse était oui. Enveloppée dans plusieurs couches de ses vêtements les plus chauds, elle se tenait debout dans le hall peint en blanc et examinait les tableaux représentant des chasses, tandis que Pétale sermonnait en privé l'homme rougeau qui s'appelait Dick. Elle n'entendait pas vraiment ce qu'il disait derrière la porte fermée, rien qu'un torrent assourdi de reproches. Elle évitait de toucher l'appareil Maas Neotech dans sa poche. Deux fois déjà, Colin avait tenté de la dissuader. Dick ressortit des réprimandes de Pétale avec un sourire sur sa petite bouche ferme. Sous son costume noir cintré, il portait un col roulé en cachemire rose et une fine veste en laine grise. Ses cheveux bruns étaient plaqués contre son crâne, une barbe de quelques heures recouvrait ses joues. Elle saisit le boîtier au creux de sa paume dans sa poche. « Salut !» lança Dick en la détaillant de haut en bas. « Où veux-tu aller te balader ?»«
Portobello Road », dit Colin, appuyé contre le mur près du porte-manteau bien garni.
Dick y prit un manteau noir en traversant Colin, l'enfila, puis le boutonna. Il en sortit une paire de gants en cuir noir et épais.
« Portobello Road », dit Kumiko
en relâchant l'appareil. « Depuis quand travaillez-vous pour M. Swain ?» demanda-t-elle, tandis qu'il marchait sur le trottoir gelé de la rue.
« Pas mal de temps, » répondit-il. « Fais attention à ne pas glisser. Il y a de sacrés talons sur ces grolles. »
Kumiko titubait près de lui sur des chaussures à talons noirs françaises. Comme elle l'avait prévu, il était presque impossible de marcher sur les plaques de verglas avec de tels souliers. Elle lui prit la main pour s'aider. Elle sentit alors du métal sur sa paume. Les gants étaient lestés, les doigts renforcés de fibres de carbone. Il resta silencieux lorsqu'ils empruntèrent une rue adjacente au bout de celle de Swain. Mais quand ils atteignirent Portobello Road, il s'arrêta.
« Excuse-moi, mademoiselle, »
dit-il avec une pointe d'hésitation dans la voix, « mais c'est vrai ce que disent les garçons ?»«
Les garçons, pardon ?»«
Les garçons de Swain, ses employés habituels.
Que tu es la fille du grand Manitou, le grand chef de Tokyo ?»«
Désolé, » dit-elle, « je ne comprends pas. » »«
Yanaka, tu t'appelles Yanaka ?»«
Kumiko Yanaka, oui. » Il l'observa avec une intense curiosité. Puis l'inquiétude s'empara de son visage et il regarda autour de lui avec prudence.
« Mince !» dit-il. « Ça doit être vrai !»
Son corps trapu et engoncé dans ses vêtements était tendu aux aguets.
« Le chef a dit que tu voulais faire du shopping. »«
Oui, merci. »«
Où dois-je t'emmener ?»«
Ici !» dit-elle avant de le conduire dans une salle d'arcade étroite remplie de gommiers anglais. Ses expéditions shopping à Shinjuku lui furent très utiles avec Dick. Les techniques qu'elle avait mises au point pour torturer les secrétaires de son père fonctionnèrent tout aussi bien ici. Lorsqu'elle obligea le garde du corps à l'aider à choisir entre deux médaillons édouardiens, entre tel ou tel morceau de verre coloré, même si elle prit bien soin de n'acheter au final que des objets fragiles ou très lourds, difficiles à porter et extrêmement chers. Une vendeuse bilingue factura 80 000 livres à la puce de la Mitsubank de Kumiko. Celle-ci glissa une main dans la poche qui tenait l'appareil Maas Neotech.
« Ravissant !»
dit l'anglaise en japonais en enveloppant l'achat de Kumiko. Un vase doré au mercure orné de griffons gravés.
« Affreux !»
commenta Colin en japonais. « Et c'est une imitation en plus !» Il s'allongea sur un canapé victorien piqué en crin, ses bottes sur le bar Art déco, soutenu par des anges d'aluminium en plein vol. La vendeuse ajouta le vase emballé au fardeau de Dick. C'était son 11e antiquaire et le 8e achat de Kumiko.
« Je crois qu'il va falloir que vous tentiez le coup, » conseilla Colin.
« Dick ne va pas tarder à appeler Swain pour qu'une voiture rapporte tout ça.
« C'est fini là, non ? »
demanda-t-il avec espoir par-dessus les emplettes de Kumiko.
« Encore une boutique, s'il vous plaît !»
Kumiko sourit.
« D'accord, »
dit-il d'un air sévère. Une fois dehors, elle planta le talon de sa chaussure gauche dans une anfractuosité du trottoir qu'elle avait repérée à son arrivée. « Ça va ?» demanda-t-il en la voyant trébucher. « J'ai cassé le talon de ma chaussure. » Elle retourna dans la boutique à cloche-pied et s'assit près de Colline sur le canapé piqué en crin. La vendeuse se précipita à son aide. « Retirez-les vite, » conseilla Colline, « avant que notre pote Dick pose ses paquets. » Elle défit la fermeture éclair de la chaussure au talon cassé, puis l'autre, les enleva toutes les deux. Elle ne portait pas sur les pieds la soie ordinaire qu'elle avait en général l'hiver, mais des chaussettes à orteils en mince caoutchouc noir et aux semelles en plastique strié. Elle passa presque entre les jambes de Dick en se précipitant vers la porte, mais son épaule heurta la cuisse de l'homme au passage et elle l'envoya contre une vitrine de carafe en cristal. Puis elle se retrouva libre, courant entre les hordes de touristes de Portobello Road. Elle avait très froid aux pieds, mais les semelles en plastique crantées l'empêchaient de glisser, à part sur la glace, se rappela-t-elle en se relevant de sa deuxième chute, des gravillons humides sur les paumes. Colin lui avait indiqué cet étroit passage de briques sombres. Elle s'empara de l'appareil. « Et ensuite, par ici » dit-il. « Je veux aller au Rose and Crown !» lui remémora-t-elle. « Il faut faire attention. Dick a déjà dû déployer des hommes de Swain, sans parler de la traque que l'ami de Swain, de la branche spéciale, pourrait organiser si on lui demande. Et je ne vois pas pourquoi on ne lui demanderait pas. » Elle pénétra dans le Rose and Crown par une porte latérale, Colline à ses côtés, contente de retrouver l'obscurité douillette et la chaleur, qui paraissait inhérente à ces terriers d'assoiffés. Elle fut frappée par la façon dont tous les murs et les sièges étaient rembourrés par les rideaux qui assourdissaient tout. Avec des couleurs et des tissus moins miteux, l'endroit aurait étrangement semblé moins chaleureux. Les pubs, se dit-elle, étaient la manifestation extrême de la façon dont les Anglais considéraient le gommi. Poussée par Colline, elle se fraya un chemin entre les clients attroupés devant le bar dans l'espoir de trouver Dick. « Qu'est-ce que tu veux boire, petite ?» Elle leva les yeux vers le large visage blond derrière le comptoir, rouge à lèvres vif et joues fardées. « Pardon, » dit Kumiko, « j'aimerais parler à Monsieur Bevan. »«
Ça sera une pinte pour moi, Alice !»
dit quelqu'un en sortant 3 pièces de 10 livres. « Une Lager !» Alice actionna un grand levier de céramique blanc et remplit une pinte de bière pâle. Elle posa le verre sur le bar éraflé et rangea l'argent dans une caisse enregistreuse derrière le comptoir.
« Quelqu'un veut te parler, Bevan ?»
dit Alice lorsque l'homme leva sa pinte. Kumiko se tourna vers un visage rouge et ridé. Sa lèvre supérieure très courte évoquait un lapin, bien que Bevan soit grand et presque aussi large que Pétale. Il avait également des yeux de lapin, ronds, marrons, avec très peu de blanc. « À moi ?» Son accent lui rappela celui de Tic. « Dites-lui oui !» intima Colline. Il ne voit pas ce qu'une petite japonaise en chaussettes en plastoc peut bien lui vouloir au bar.
« Je cherche Tic !»
Bevan lui adressa un regard dépourvu d'expression par-dessus le rebord de sa pinte levée.
« Désolé, » dit-il, « je ne connais personne de ce nom. »
Il but. « Sally m'a dit que je devais venir vous voir si Tic n'était pas là. Sally Shears. » Bevan s'étouffa dans sa laigueur et écarquilla les yeux. Il toussa, posa le verre sur le bar et prit un mouchoir dans la poche de son par-dessus. Il s'essuya le nez et la bouche.
« J'embauche dans 5 minutes, » dit-il. « Mieux vaut qu'on parle derrière. »
Alice releva une portion du comptoir montée sur des gonds. Bevan y fit passer Kumiko avec de petits gestes des mains, puis il jeta un bref coup d'œil par-dessus son épaule. Il la guida jusqu'à un étroit couloir qui donnait sur une pièce derrière le bar. Les murs de briques, vieux et irréguliers, étaient recouverts d'une couche de peinture verte et sale. Il s'arrêta près d'un panier à linge en acier abîmé, rempli de petites serviettes de comptoir qui empestaient la bière.
« Si c'est une embrouille, tu vas le regretter, gamine, » dit-il. « Pourquoi est-ce que tu cherches Tic ?
Sally est en danger, je dois retrouver Tic et lui dire.
« Putain de merde !» dit le barman. « Mets-toi un peu à ma place !»
Colline plissa le nez devant le panier de serviettes trempées. « Oui ?» fit Kumiko.
« Si t'es un indique et que je te dis où trouver Stick, en admettant que je le connaisse, et qu'il est sur un coup, alors il me le fera payer, pas vrai ? Mais si t'en es pas une, alors cette Sally, c'est elle qui me le fera payer, tu piges ?»
Kumiko hocha la tête.
Vous êtes pris entre le marteau et l'enclume. » Sally avait utilisé cette expression et Kumiko l'avait trouvée très poétique.
« Voilà !» dit Bevan en la regardant bizarrement.
« Aidez-moi. Elle est vraiment en grand danger. »
Il passa sa main dans ce qui lui restait de cheveux roux.
« Vous allez m'aider !» s'entendit-elle insister en sentant le masque froid de sa mère se mettre en place. « Dites-moi où est Tic ?» Le barman parut frissonner alors qu'il faisait chaud dans le couloir. Une chaleur torride, l'odeur de bière se mêlant à des notes vives de désinfectant.
« Tu connais Londres ?»
Colin lui adressa un clin d'œil.
« Je sais me repérer, » répondit-elle. « Bevan !» dit Alice en passant la tête de derrière le mur. « Les Condés !»«
La police !» traduisit Colin. « Margaret Ward, SW2 » dit Bevan. « Je ne connais pas le numéro et pas non plus son téléphone. »
« Je vais vous faire sortir par l'arrière, » dit Colin.
« Ce ne sont pas des policiers ordinaires. » Kumiko n'oublierait jamais sa fuite sans fin dans le métro de la ville. Colin l'avait conduite du Rose and Crown à Holland Park, puis sous terre en lui expliquant que sa puce de la Mitsubank Bank ne lui était plus d'aucune utilité. Désormais, si elle s'en servait pour un taxi ou acheter quelque chose, un agent de la branche spéciale verrait la transaction briller comme du magnésium sur la grille du cyberespace. « Mais il lui fallait trouver Tic, » lui dit-elle. « Elle devait aller à Margaret Road. » Il se renfrogna. « Non, » dit-il, « attendez la nuit. » Brixton n'était pas loin, mais les rues étaient encore trop dangereuses en plein jour, avec la police dans le camp de Swain. Mais où pouvait-elle se cacher? Elle avait très peu d'argent, la notion de monnaie, de pièces et de billets lui était étrangère, désuète. « Ici, » dit-il, tandis qu'elle descendait vers Holland Park dans un ascenseur, pour le prix d'un billet. Les formes bombées des trains argentés, les vieux sièges mous, gris et verts, et la chaleur, une agréable chaleur. Un nouveau terrier, ici, dans le royaume du mouvement perpétuel.